Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Lors de l'enterrement hier jeudi à Washington DC de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui en découlent. Et pour sa part, Paul Kagame estime que les dispositions de ces accords contiennent tout ce qu'il faut pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis près de 3 décennies. En Ituri, environ 40 000 demandeurs d'asile sud-soudanais sont en cours de relocalisation par la Commission nationale pour les réfugiés en tente d'Arou. Plus de 60 organisations de la société civile congolaise rappellent l'urgence d'un dialogue inter-congolais inclusif après l'enterrement de l'accord de paix de Washington. Elles estiment que sans ce dialogue, les accords de Doha et de Washington resteront lettres mortes. Pour en parler, nous recevons Jeff Pambi, membre d'une plateforme d'organisation de la société civile congolaise. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Ça y est, les présidents congolais et rwandais ont entériné hier jeudi à Washington DC l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier sous la médiation américaine. Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui en découlent. Le chef de l'État congolais a exprimé l'espoir que avec le même sérieux, le Rwanda respectera pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington. Il a rappelé que sa main reste tendue pour, entre autres, une coopération apaisée fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Hirung, envoyé spécial de Radio Kapi à Washington DC.
Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimiste, lucide, mais résolument optimiste. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région.
Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame estime que les dispositions de ces accords contiennent tout ce qu'il faut pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis près de 3 décennies. Selon lui, il revient désormais aux signataires de ces accords et aux dirigeants africains de les mettre en œuvre. On écoute Paul Kagame dans cet extrait proposé par Poli Mouzalia.
Ces accords prévoient tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ces conflits une fois pour toutes. Si cet accord échoue et que les choses ne se déroulent pas comme prévu, la responsabilité n'incombera pas au président Trump, mais à nous-mêmes. C'est à nous, en Afrique, qu'il appartient de travailler avec nos partenaires pour consolider et étendre cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la route qui nous attend. Cela ne fait aucun doute. Je sais que le Rwanda ne sera pas en reste. Je peux vous l'assurer. Notre seul objectif est et a toujours été d'assurer la sécurité de notre pays après avoir enduré tant de tragédies. Nous voulons désormais seulement aller de l'avant, confiant dans l'espoir d'un avenir prospère et stable.
Dans le même registre, la MONUSCO salue l'enterrement le 4 décembre à Washington DC de l'accord de paix et du cadre régional d'intégration économique par les présidents de la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. La mission rend hommage au président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la détermination politique dont ils ont fait preuve en faveur de la paix et de la coopération régionale. La MONUSCO considère que les accords conclus, eux, ouvrent ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité pour rétablir la confiance entre les deux pays, poser des bases plus solides pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, alléger les souffrances des populations civiles et contribuer à libérer les potentiels économiques de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Par ailleurs, les facilitatrices, membres du panel des facilitateurs de la médiation de l'Union africaine, Saleh Woko Zewde, ancienne présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, poursuivent les consultations avec les communautés de l'Est et de la RDC. Selon un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Kapi, elles se sont entretenues virtuellement lundi avec les représentants des communautés des provinces de Nord et Sud Kivu ainsi que de l'Ituri, affectées par la crise qui secoue cette partie du pays depuis plus de 3 décennies. Le point avec Grace Hamzati.
Le communiqué indique que ces facilitatrices ont échangé avec les représentants des organisations féminines, de la société civile, de la jeunesse et du secteur privé, les représentants des notabilités et autorités coutumières, ainsi que la communauté humanitaire. Elles ont félicité les gouvernements du Togo et de la France pour l'organisation de la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, qui a permis la mobilisation des fonds en faveur des défis humanitaires, tout en espérant les déblocages des financements nouveaux. Dans leurs échanges, les deux facilitatrices ont souligné que leurs consultations s'inscrivent dans la droite ligne des résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies, qui considèrent et consacrent la place de la femme et des jeunes dans les processus de paix. À travers ces consultations, les facilitatrices visent à s'assurer que les voix des communautés de l'Est soient pleinement intégrées dans les discussions sur la mise en œuvre des efforts de paix au niveau continental et international. Les échanges qui ont permis une mise à jour de l'état des lieux dans les zones affectées ont notamment souligné l'importance de l'appropriation locale des processus de paix en cours et des accords qui en résultent afin d'en mesurer l'impact sur les populations des provinces concernées.
Je le disais en titre, en Ituri, environ 40 000 demandeurs d'asile sud-soudanais sont en cours de relocalisation par la Commission nationale pour les réfugiés en Tendaru. L'opération qui a débuté en début de semaine vise à les éloigner de la ligne frontalière entre la RDC et le Sud-Soudan pour des raisons de sécurité et conformément aux conventions internationales. Partenaires de cette opération, les autorités locales, les HCR et l'ONG internationale Médecins sans frontières suisses. Le récit est signé Jean-Claude Lokidile.
Les premiers réfugiés venus du district sud-soudanais de Morobo ont commencé à franchir la frontière en avril 2025. Installés dans des zones dépourvues d'infrastructures et vivaient depuis dans des conditions humanitaires difficiles, leur présence prolongée près de la frontière exposait également la région à des tensions communautaires et à des risques sécuritaires liés aux groupes armés actifs de l'autre côté de la frontière. Pour répondre à cette situation, la CNR, avec le concours des autorités locales, a choisi le site d'Adoumi dans la chefferie de Kakwa comme premier lieu d'accueil, un espace disposant d'écoles, de points d'eau potable et de structures sanitaires. Selon Karim Adidi, responsable de la CNR à Arou, ce déplacement permet non seulement de protéger les réfugiés, mais aussi de réduire la pression sur les communautés locales déjà très vulnérables. D'après des sources locales, les familles sont désormais vers des zones situées à une quarantaine de kilomètres d'Opépeni où elles pourront s'installer dans un environnement plus sécurisé et mener une vie plus digne. Bounia, Jean-Claude Louki, Guilé, Radio Kapi.
Dans la ville de Beni, pendant ces temps, environ 17 000 personnes, dont de nombreux ex-combattants, vont bénéficier d'une assistance à travers des activités génératrices de revenus grâce au projet Star Est, stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Le lancement des activités a eu lieu ce jeudi 4 décembre 2025 dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Jean-Baptiste Kambalekiana, chef de programme des réseaux des médias pour le développement Remède, organisation choisie pour l'exécution de ce projet, explique son contenu au micro de Marc Marofimbo.
Ce projet s'inscrit dans la deuxième composante de la mission de stabilisation de la RDC qui consiste à la dotation des AGR. Concrètement, nous sommes au niveau de lancement. Ce lancement sera suivi par des consultations communautaires et ces consultations communautaires, il y aura une enquête qui va nous permettre d'identifier les organisations à base communautaire, les bénéficiaires, comme vous avez suivi avec moi, 17 000 bénéficiaires, mais qui sont répartis à catégories. Les 30% de ces bénéficiaires qui sont des ex-combattants. Et d'autres parties sont destinées à des populations vulnérables et des groupes à besoins spécifiques. Ça peut être des victimes de violences basées sur les genres. Ça peut être des peuples autochtones appelés communément pygmées et d'autres. Et donc, nous demandons à cette population de savoir que l'AGR n'est pas l'argent qu'il faudra utiliser pour les fêtes, pour manger. C'est l'argent qu'il faut fructifier. Donc, il faut travailler avec l'argent pour avoir des bénéfices à long terme.
Signalons que les bénéficiaires recevront chacun 400 dollars en deux tranches. Ils suivront au préalable une formation au métier choisi avant de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Ce journal se poursuit dans la province du Maniema où, à l'approche de la fin d'année, les cas d'incursion d'hommes armés se multiplient dans cette province. La population lance un cri d'alarme aux autorités. En l'espace d'une semaine, deux journalistes ont été pris pour cibler à Kindu. Le dernier cas en date est celui du journaliste Kibondo Amisilulu de la radio Kindu fréquence modulée KFM dont la résidence a été visitée par des malfrats dans la nuit de mardi à mercredi. Les trois hommes qui se sont introduit chez lui, avait pour mission de lui ôter la vie. Vivant désormais dans la peur, le journaliste appelle les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités. Reportage de Florence Kizalunga.
Ces jours, c'est avec peur au ventre que la population et les journalistes en particulier passent nuit. Après avoir vandalisé sa maison, Kibondo Amisilulu vit dans une psychose.
Il était 1h30, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, mais disant, nous sommes trois personnes devant votre porte à 7h, on nous a envoyé pour ôter la vie. Alors ils m'ont dit il fallait donner 500 dollars pour qu'ils rentrent, mais malheureusement je leur avais dit, je ne suis pas à la maison. Et soudain ils m'avaient dit, bon, vous verrez alors ce que nous allons faire à tes enfants qui sont ici, en ce moment ici. Je suis en train de vivre en psychose, mais je suis en train de travailler jusqu'à 7h ici.
Les comités transitoire de l'UNPC Maniema s'est dit consterné par cette situation et appelle à l'intervention urgente des autorités. Grâce Mbambi, président.
Nous demandons à ce que nous soyons protégés par nos autorités. Les journalistes ne sont pas des gens qui doivent s'occuper eux-mêmes de leur sécurité. Nous faisons le travail qui est bénéfique pour la population et même pour les autorités que vous êtes. Et en retour, nous avons besoin que vous puissiez nous sécuriser. Ça ne coûte pas les aides de la tête.
Bien avant Loulou, le journaliste Kaponda Medar était aussi visité. Chez lui, tous les biens de valeur ont été emportés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Présentation ce mercredi à Matadi au Congo central d'un réseau spécialisé dans la fabrication et la circulation des faux billets en dollars. Cette bande de présumés faussaires a été démantelée par des services de l'Agence nationale de renseignement ANR et la police en début de semaine dans la commune de Matadi. Nana Plurich Mambou, reportage.
Ces groupes de faussaires faisaient circuler d'importantes quantités de fausses monnaies sur les marchés locaux et se livraient également à des actes d'extorsion, perturbant ainsi les activités économiques et causant d'importantes pertes aux habitants de la ville. Selon les premières enquêtes, deux principaux suspects ont été interpellés en possession de faux billets, mais aussi de faux documents attribués aux États-Unis d'Amérique. Ces documents portaient de fausses autorisations d'usage pour des transactions monétaires ainsi que des prétendues demandes de financement d'origine américaine destinées à appuyer leurs opérations frauduleuses. Le bourgmestre de la commune de Matadi qui a présenté ses présumés faussaires à la presse affirme qu'ils ont causé beaucoup de torts à la population. Patrick Yamesso salue l'action conjointe des services de sécurité et appelle la population à redoubler de vigilance face au réseau des criminels qui sévissent dans la ville.
Merci à nos services spécialisés qui ont travaillé de façon systématique pour tomber sur ces malfrats qui fabriquent des billets des banques. Vous savez, nous voulons que l'économie soit redynamisée dans notre pays. Et du coup, il y a aussi les malfrats qui génèrent quoi.
D'après les informations recueillies sur place, ces réseaux seraient composés des ressortissants congolais et nigériens. Les suspects interpellés ont été remis aux services compétents pour la poursuite des enquêtes judiciaires et devront répondre de leurs actes devant la juridiction compétente. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa pour parler des élèves du complexe scolaire La Borne qui étaient sensibilisés sur la prévention à l'exploitation et aux abus sexuels. Non à l'exploitation et aux abus sexuels commis par les personnels de la Monisco, sur le thème de la campagne menée ce jeudi au sein de cet établissement scolaire. Cette activité a été organisée par l'ASBL Femina en partenariat avec la Monisco à travers sa section conduite et discipline. Le déroulement de cette campagne avec Lukinza.
Des élèves, filles tout comme garçons, ont suivi avec une attention soutenue les enseignements liés à l'exploitation et aux abus sexuels impliquant les personnels de la MONUSCO. Yayet Elonga, responsable des Femina ASBL, explique l'objectif de cette campagne.
Dans la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la fille, avec la section conduite et discipline de la MONUSCO, nous avons pensé qu'il était important de parler aux enfants des violences sexuelles, mais aussi des exploitations et abus sexuels dont les petits où les jeunes garçons sont victimes. Les enfants ont besoin d'être protégés et non qu'ils soient abusés.
Pour les bénéficiaires, cette campagne s'est révélée d'une importance capitale en vue de protéger les enfants. Daphné Biamungu, élève en 4e année pédagogique.
J'ai retenu que les parents doivent instaurer le dialogue avec leurs enfants pour pouvoir les protéger et de ne pas prendre ça pour un sujet tabou. Et ça peut plutôt nous donner des idées pour nous protéger vis-à-vis d'une situation quelconque.
La campagne s'est clôturée par une séance des questions-réponses ayant trait au thème du jour et les lauréats ont reçu des cadeaux de la part de la MONUSCO.
Actualité internationale.
En Centrafrique, les électeurs devront participer le 28 décembre à un quadruple scrutin historique, présidentiel, législatif, régional et municipal. Le plus scruté sera bien sûr l'élection présidentielle, au cours de laquelle Faustin Archange Touadéra briguera un troisième mandat après avoir changé de constitution en 2023. Infrastructure, ressources naturelles, agriculture. Les soutiens du chef de l'État affirment que le pays tire déjà des dividendes socio-économiques de la stabilité retrouvés, mais les populations tardent encore à en sentir les effets dans leur quotidien.
L'invité.
L'invité de la rédaction est Jeff Pambi, membre d'une plateforme et d'organisation de la société civile congolaise. Alors que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame viennent de signer un accord de paix et un cadre d'intégration économique régionale sous l'égide de Donald Trump, plus de 60 organisations de la société civile congolaise rappellent l'urgence d'un dialogue intercongolais inclusif. Jeff Pambi s'entretient avec Freddy Bikumbi.
Monsieur Jeff Pambi, bonjour.
Bonjour.
Par rapport à cette cérémonie de signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, quelle est l'attente de la société civile congolaise?
Bon, l'attente de la société civile congolaise à l'heure actuelle est une et unique, c'est-à-dire que nous voulons la paix dans notre pays. Nous pensons que nos populations ont trop souffert de cette guerre, de cette insécurité généralisée sur toute l'étendue de la République et particulièrement à l'est de notre pays, et nous attendons à ce que toutes les batteries soient mises en marche pour que cette guerre cesse et que la paix durable et définitive, comme nous le disons, puisse être recouvrée. Nous encourageons toutes les initiatives qui sont prises, notamment les démarches officielles de nos gouvernants.
Et on peut lire dans cette déclaration, la RDC sans dialogue national inclusif, les accords de Washington et de Doha ne mèneront pas à une paix durable, mais aussi vous soulignez un fait, avec l'occupation de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, par des armées étrangères et en particulier l'installation d'administrations parallèles par l'AFC-M23, retarde la tenue du dialogue national inclusif, ce qui revient à consacrer la partition de fait de notre pays. À quoi vous voulez dire?
Vous rendrez compte que dans cette démarche de Doha comme de Washington, on singularise, je disais, le problème. On ne parle que de M23, AFC M23 et du gouvernement de la RDC, comme si le problème du Congo ne se limitait qu'à ça. Et puis on parle du Rwanda et de la RDC, alors que dans ce conflit qui est en fait un conflit complexe, il y a d'autres acteurs majeurs de ce conflit qui doivent nécessairement être pris en compte, dont notamment ce qui se passe à Ituri, où il y a l'Ouganda, par exemple, qui est un acteur clé dans la sous-région et qui occupe pratiquement notre pays dans la partie de l'Ituri. Et nous avons le Burundi aussi qui joue un rôle clé dans ce conflit. Mais ces acteurs-là, sur le plan international ou sous-régional, ne sont pas pris en compte. Et au-delà de l'aspect régional ou international, il y a en interne d'autres éléments, comme par exemple d'autres groupes armés, sans pouvoir, loin de moi, l'idée de faire leur apologie, dans cette partie de la République, qui ne sont pas prises en compte. Et au-delà de groupes armés, il y a aussi la question politique et la question sociale, d'où, pour nous, nous pensons qu'il faut voir cet élément, cette crise, de manière globale. Et le seul cadre, à l'heure qu'il est, qui pourrait permettre aux Congolaises et aux Congolais, avec l'appui de nos amis au niveau régional ou provincial, le seul cadre, dirais-je, c'est un dialogue inclusif. Et ce dialogue, nous soulignons l'aspect inclusif parce que il ne doit exclure personne.
Croyez-vous à cette signature sincère du Rwanda ou de la RDC pour une paix dans la région des Grands Lacs?
À question directe, réponse directe, non. Et cette signature n'apportera rien, parce que je l'ai dit au début, et c'est qu'attend le peuple congolais, c'est la paix et une paix globale sur toute l'étendue de la République. Et le fait que Kinshasa parle avec un seul groupe, qui est l'AFC M23, et un seul acteur au niveau régional, donc un seul pays, le Rwanda, eh bien, ça risque de créer un autre problème, et qui va être certainement beaucoup plus large si on ne l'adresse pas tout de suite. Donc, la signature de Washington, c'est bon pour la forme, ils le font, mais croyez-moi, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, et c'est surtout beaucoup, beaucoup de moyens perdus quand on pense à combien de gens sont engagés dans cette démarche, qui se déplacent, et surtout des personnes inutiles qui n'apportent rien aux tractations, et donc tout ça, c'est du temps perdu. Il faudrait qu'on aille vite, et très vite à l'essentiel.
Jeff Pambi, merci.
C'était notre invité Jeff Pambi qui s'entretenait avec Freddy Bikumbi. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonnée par Vicky Odia, supervisée par Polly Mouzalia. Et la mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix avec Christelle Fritimangwa.